Et, mais avant ça, une triple crise ce soir. Crise humanitaire d'abord, diplomatique ensuite et politique enfin. La France va-t-elle, doit-elle accueillir ce bateau, l'Ocean Viking, 234 migrants à bord, aucun port pour les accueillir depuis 20 jours maintenant. L'Italie n'en veut pas. Le navire fait donc route vers les côtes françaises, mais pour l'instant, aucune solution n'a été annoncée. Alors la France doit-elle accueillir l'Ocean Viking? On va en parler tous ensemble dans une seconde. Juste avant, les images de la vie à bord avec Pauline Sarafi.
À bord de l'Ocean Viking, des familles entières, des enfants en bas âge et plus de 40 mineurs non accompagnés. Après 19 jours passés en mer, leur santé se dégrade.
La situation médicale est catastrophique. Il y a une infection respiratoire qui s'est propagée au sein des rescapés. Ils vivent dans des conditions extrêmement confinées, exiguës. Et donc, avec cette promiscuité, c'est évidemment la propagation de ces maladies respiratoires. Il n'y a absolument pas de choix. Il faut que ces personnes débarquent au plus vite.
Avant leur départ, certains réfugiés étaient déjà affaiblis. La plupart se trouvaient dans des camps de réfugiés en Libye, où ils ont subi de nombreuses violences. Une fois en mer, ils ont erré pendant plusieurs jours sans aucune assistance, des conditions qui aggravent leur santé mentale.
Il n'y a pas de discussion sur qui doit être sauvé, c'est-à-dire la loi est très claire, doit être les portes les plus proches de l'Italie, géographiquement c'est comme ça. Et après il y a une deuxième discussion, et je suis tout à fait d'accord avec les collègues, c'est la redistribution. On a des accords signés pour tous les pays européens, que c'est l'accord de la Valletta, et c'est sous ça qu'il faut être solidaire.
L'Ocean Viking devrait se rapprocher des côtes françaises dès ce jeudi.
Bonsoir Antoine Laurent.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sauveteur en mer, auteur de journal de bord de l'Aquarius dans la peau d'un marin sauveteur aux éditions Quairo. Vous avez secouru des personnes en danger en Méditerranée pendant des mois. C'était à bord d'un autre bateau, l'Aquarius. Donc, merci d'être avec nous. Bonsoir Julien Odoul.
Bonsoir.
Député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National. Juste une chose, la vie à bord dont on parlait, vous l'avez vécue cette vie à bord. Après des jours et des jours à tourner en mer, à quoi ça ressemble ?
C'est une attente interminable, c'est extrêmement périlleux et douloureux pour les personnes qui ont été rescapées, qui ont, avant d'avoir été secourues, ont traversé tout un tas d'épreuves, qui ont aussi été en mer dans des conditions très risquées, dans une situation de détresse absolue, se retrouvent généralement le matin, après une nuit dans l'inconnu, à découvrir cet océan sans limite, et puis... en général, la traversée vers l'Italie, lorsque l'Italie est plus conciliante, dure à peu près 36 heures. Mmh. Et les bateaux humanitaires sont équipés pour accueillir ces personnes 36
Là,
heures.
Là, les images que l'on voit, ce sont les images de l'Aquarius. Hein,
oui, ouais, ça date un peu. Ça doit être en 2018.
Mais c'est le bateau sur lequel vous avez servi.
Tout à fait. Et donc, c'est pour ça, au-delà de 36-48 heures pour lesquelles ces bateaux sont équipés, ça devient rapidement compliqué pour des questions logistiques et aussi pour des questions médicales et psychologiques.
Qu'est-ce que vous dites ce soir, vous ? Qu'il faut accueillir ce bateau ?
On comprend le malaise et l'imbroglio diplomatique, parce que c'est vrai que les ONG, depuis toujours, demandent à ce qu'un mécanisme de répartition quasi automatique soit mis en place. Et on sait que la France a obtenu en juin dernier un accord au niveau européen pour que ça puisse se faire plus facilement. Il s'avère que là, le nouveau gouvernement italien clairement remet en question cet accord par la force. Maintenant, il faut que ces choses-là soient remises au clair, mais on ne peut pas prendre en otage 234 personnes et attendre la fin d'une négociation entre des diplomates. Il faut que ces personnes soient débarquées le plus rapidement possible. L'Italie n'a pas voulu, la France, elle est là, la France fait aussi partie de l'Europe et c'est une responsabilité européenne avant d'être une responsabilité italienne. Donc la France peut tout à fait les prendre.
Julien Odoul, on a d'abord cette crise humanitaire. C'est 234 personnes à bord de ce bateau qui tourne depuis 20 jours en mer Méditerranée. Qu'est-ce que vous dites ce soir sur ce cas précis, encore une fois, sur ce bateau-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la France, par devoir humanitaire, doit dire ce soir, on arrête là, on ouvre un port ?
Déjà, on est tous touchés par la détresse de ces pauvres gens. Et notre objectif à tous, déjà, c'est de sauver des vies. Mmh. Sauver des vies parce qu'il y a des gens qui prennent des risques inconsidérés et qui vont au-devant d'une mort certaine en Méditerranée, et ça, nous ne pouvons l'accepter. Vous dites ce cas particulier. Malheureusement, ce n'est pas un cas particulier. Si nous accueillons ce bateau, demain, il faudra en accueillir 10, après-demain, il faudra en accueillir 50, et ensuite 100. Et le problème, c'est que l'ONG SOS Méditerranée nous tend un piège émotionnel qui est, à mon sens, criminel. Criminel pourquoi ? Parce qu'avec ce piège émotionnel, c'est plus de morts en Méditerranée, c'est plus de campements de migrants du type de Porte de la Chapelle qui sont une honte pour notre pays. Tous les Français, tous les Parisiens qui peuvent voir des pauvres gens entassés dans des campements de fortune à Porte de la Chapelle peuvent être choqués, et je suis choqué. Et ensuite, il faut bien le dire, et je pense qu'il faut le dénoncer, l'ONG SOS Méditerranée, comme d'autres, alimente un trafic d'êtres humains en étant complice des passeurs. Il faut bien signifier l'action de ces ONG qui sont en lien aujourd'hui avec des véritables négriers qui profitent de la détresse humaine, qui, en Libye, encore une fois...
Attendez.
Non, mais c'est très important.
Il y a beaucoup de choses.
C'est très,
trafic,
très important.
Trafic, négrier, piège émotionnel,
mais
criminel.
Sûr, mais bien sûr.
Il va falloir qu'on détaille tout ça. Attendez.
Donc
il va falloir
qu'on détaille tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous d'accord pour sauver ces gens. En revanche, il ne faut pas les accueillir. Il faut qu'ils soient accueillis, en tout cas, mais donc, renvoyés dans les ports les plus proches, c'est-à-dire les ports tunisiens. Les ports du Maghreb, encore une fois, c'est le
droit maritime. Là, le port le plus proche ce soir pour l'Ocean Viking, le port le plus proche, c'est pas en Tunisie ou c'est pas au Maghreb.
Non, mais
le port le plus proche ce soir,
là, c'est
éventuellement l'ONG. La Sardaigne, c'est éventuellement la Corse dans les heures qui viennent.
Avant que l'ONG vienne les récupérer, donc ils sont partis d'un port libyen ou ils sont partis en tout cas d'un port africain. Et donc, quand ils étaient en détresse, il fallait les renvoyer sur ces ports-là.
Mais là, ce soir,
on peut s'étonner pourquoi la Tunisie ou l'Algérie n'accueillent jamais ces bateaux de migrants.
Julien Odoul.
Parce que l'Algérie a une politique migratoire surtout, extrêmement ferme et extrêmement dissuasive. Je rappelle que le gouvernement algérien, au mois de septembre dernier, a expulsé 1600 migrants et les a renvoyés à ses frontières.
Alors attendez, vous avez prononcé des mots très forts. Négrier, criminel, trafic, pour ce qui est de l'ONG.
Je parle des trafiquants d'êtres humains et je dis que l'ONG est complice de ces trafics d'êtres humains.
Qui est un discours que l'on entend aussi, Antoine Laurent, c'est terrible d'entendre ça, qui est un discours qu'on entend aussi du côté de l'Italie, qui dit les ONG qui sont présentes en Méditerranée alimentent et récupèrent ces personnes qui ne sont parfois même pas en danger, ce sont des mots qu'on a entendus du côté des responsables italiens, et alimentent d'une certaine manière la venue par milliers de ces migrants en Europe. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, encore une fois, qui avez été sauvé des vies en Méditerranée?
Je salue votre humanisme, et si au moins on peut partager cette valeur, tant mieux.
Bien sûr.
Mais pour éviter d'être criminel, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'alimenter ce trafic d'êtres humains. Et ceux qui l'alimentent aujourd'hui, moi je peux le dire, alors je ne dis pas que c'est votre responsabilité, c'est l'Union européenne par exemple, qui envoie des millions d'euros chaque année pour financer les gardes-côtes libyens, qui sont chargés d'intercepter les migrants en mer, pour faire barrage à leur départ, et les renvoyer en Libye, qui sont ensuite en détention dans des camps dans lesquels les conditions sont atroces, et ensuite sont revendus sur le marché de l'esclavage. Et puis il y a un cercle vicieux et terrible dans lequel ces personnes sont embarquées, et ensuite se retrouvent de nouveau en mer, de nouveau en détresse. Et alors, tout ça est parfaitement désolant, mais à un moment donné, quand ces personnes sont en détresse, en pleine mer, en haute mer, et parfois même dans les eaux européennes, notamment dans la zone maltaise, on n'a pas d'autre choix que d'aller les secourir. On ne va pas les laisser mourir.
Les secourir, oui.
Oui, les secourir,
non.
Bah, oui, il faut bien les envoyer quelque part. Non, on ne va pas les laisser sur le bateau pendant des semaines comme ça se passe aujourd'hui. Il faut bien les débarquer quelque part.
On ne peut pas les renvoyer en Libye. En comprenant, ça peut vouloir dire, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Les secourir, oui, mais on les met où en ensuite?
Pratiquement, vous voyez que là, on ouvre la boîte de Pandore. Très clairement, si on se plie à la politique du fait accompli de ces ONG, et si, de manière systématique, à chaque fois qu'il y a un bateau qui arrive... avec, encore une fois, des hommes et des femmes.
Mais vous voudriez,
des hommes et des femmes.
Vous voudriez faire un exemple, qu'on laisse mourir 250 personnes de façon ostensible, pour que d'un coup ça crée une sorte d'électrochoc en Afrique et que les gens viennent plus.
Cher monsieur.
Est-ce que c'est ce que vous appelez de vos voeux?
Cher monsieur.
De façon un peu insidieuse, on a l'impression que c'est quand même ce que vous recherchez.
Cher monsieur, soit vous êtes dans la caricature, soit la mauvaise foi. En tout cas, vous êtes blessant.
La situation immédiate, c'est que ces gens doivent débarquer.
Monsieur, vous
êtes. Ne serait-ce que pour leur sécurité et pour permettre aux bateaux de continuer à opérer. Parce que pendant qu'ils n'opèrent pas, des personnes sont actuellement peut-être en train de se noyer.
Aujourd'hui, la politique la plus humaniste, c'est une politique de fermeté. C'est la politique qu'a menée notamment l'Australie avec sa campagne No Way, une politique dissuasive, une politique qui a fait zéro mort donc sur les côtes australiennes. Encore une fois, continuer sur ce système-là, continuer avec cette soumission à la politique du fait accompli, c'est plus de morts en Méditerranée et c'est alimenter un commerce Roselyne qui est instable.
Je crois qu'il y a un devoir de sauvetage particulier sur un bateau. Il y a 234 personnes qui risquent leur vie, il y a des enfants, il y a des femmes malades, il y a des gens qui nécessitent une hospitalisation. La France se doit d'accueillir ces personnes, ce bateau. Et ça, je crois que là, il y a une œuvre humanitaire. Quand on voit quelqu'un qui est dans cette situation, on lui tend les mains, les bras, les bouées, les bateaux, on les accueille. Ça, je crois que c'est absolument indispensable. Maintenant, le droit de la mer, il est connu. Il y a la Convention de 1974, il y a la Convention Search and Rescue de 1979 qui délimite, enfin qui décrit bien ce droit et qui, effectivement, implique la responsabilité de l'Italie. Et l'Italie aurait dû recevoir ce bateau de migrants. Il faut reconnaître qu'elle a quand même accueilli 88 000 personnes depuis le début de l'année et que cette affaire se situe dans un environnement politique particulier qui est l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir et qui fait un peu de muscle parce que, étant donné qu'elle a fait sa campagne sur cette question migratoire, elle se trouve confrontée à ses engagements. Maintenant, une fois qu'on a sauvé ces gens-là, ça ne veut pas dire que les choses doivent s'arrêter, que le problème, il doit être réglé. Il doit être réglé au niveau de l'Union européenne. Mmh. Il doit être réglé avec ces systèmes de répartition qui n'ont pas marché jusque-là parce que la répartition, finalement, chacun n'a pas obéi aux injonctions de la répartition et on a laissé quand même, globalement, l'Italie à peu près seule devant cette chose qu'elle a à régler.
On va voir quelle est la règle avec vous, Pauline Simonet. Il y a des accords qui ont été passés entre pays européens, notamment entre l'Italie et 12 pays européens pour se répartir les migrants. Mais l'Italie, au départ, doit accueillir ces bateaux, et notamment ce bateau. Oui, elle ne le fait pas, qu'est-ce qu'elle risque l'Italie ?
Oui, effectivement, l'Italie, théoriquement, en fonction du droit international, est censée accueillir ce bateau, puisque quand il y a un bateau qui demande d'accoster avec des naufragés à bord qui sont en danger, le droit international est très clair, il faut lui porter secours, c'est le port le plus sûr, le port le plus proche qui doit lui porter secours. Mais le problème, c'est que ça fait des années que l'Italie, effectivement, remet en question et affirme, pas l'Italie seule d'ailleurs, il y a la Grèce également et d'autres pays du sud de l'Europe, l'Espagne, qui disent que c'est un fardeau trop lourd pour ces pays et qui donc, ils doivent être soutenus. C'est là que, effectivement, il y a ce mécanisme de solidarité européenne qui entre en jeu. Il y a eu plusieurs volets et en juin dernier, sous la présidence de la France, de l'Union européenne, il y a un nouveau dispositif. Il y avait déjà un premier volet qui existait avant, qui a été mis en place. Et l'idée, c'est ce mécanisme de solidarité financière. Les pays de premier accueil, ces pays de première entrée, des pays du sud de l'Europe, eh bien, ils reçoivent une contribution financière en échange, en quelque sorte, de cet accueil, de ce premier secours porté à ces migrants. Donc la France, dans ce sens-là, aurait raison de dire que l'Italie ne respecte pas ses engagements. Mais le problème, c'est que effectivement, l'Italie, elle dit non, les pays européens plus au nord, nos partenaires, ils ne respectent pas leur partie de l'engagement. Parce que d'après ce même mécanisme qui a été signé au mois de juin, c'est un mécanisme volontaire de relocalisation. Mmh. Il prévoit qu'une douzaine d'États, dont la France et l'Allemagne, accueillent environ 8000 migrants arrivés dans des pays comme l'Italie. Mais le problème, c'est que c'est un mécanisme volontaire de relocalisation. Mmh. Alors là, j'ai un peu posé la question à plusieurs spécialistes de droit maritime, de droit européen, et il n'y a pas de réponse très claire, parce qu'en fait, c'est donc un mécanisme volontaire, et donc... Est-ce qu'on peut porter plainte contre l'Italie ? L'Italie pourrait dire que la France ne remplit pas ses objectifs, ou d'autres pays européens également. Donc, ce n'est pas très clair ce qu'on pourrait faire pour...
C'est pas clair, mais on a des chiffres quand même. Ces 8000 migrants dans ce mécanisme qu'aurait dû récupérer, qui auraient dû être répartis d'une certaine manière entre pays. La France aurait dû en accueillir 3000. On en a accueilli 38 à la fin août. Chiffre à la fin août. L'Allemagne aurait dû en accueillir 3000. Elle en a accueilli 74. Ça veut dire que les Italiens, j'allais dire vos amis italiens d'une certaine manière, Julien Odoul, ce qu'ils voudraient, c'est que la France récupère plus, accueille plus de migrants en réalité.
Non mais le gouvernement italien applique la politique pour laquelle il a été élu, avec Giorgia Meloni et notamment Matteo Salvini. On ne va pas leur reprocher, c'est la souveraineté du peuple italien. Pour autant, moi, la question que je pose, c'est ces 234 migrants, les 234 de demain, 234 d'après-demain, comment on les loge chez nous, comment on les soigne, comment on les entretient, alors que nous avons plus de 10 millions de pauvres dans notre pays, alors qu'il y a un Français sur trois qui n'arrive pas à se soigner pour des raisons économiques, alors qu'il y a un Français sur quatre, et ça va s'aggraver, notamment avec l'inflation, qui ne mange pas à sa faim dans notre pays. C'est ça la réalité. Donc moi je dis, c'est une question de priorité. Aujourd'hui, on a une telle crise sociale en France, on a une telle crise aujourd'hui du pouvoir d'achat de la vie chère, que déjà, si on pouvait se concentrer et se consacrer au soutien de nos compatriotes les plus faibles, ce serait déjà une bonne chose.
Antonin André,
et c'est très facile d'avoir le cœur sur la main en permanence pour l'étranger et jamais pour les Français.
Vous m'autorisez à prendre la parole, puisque je n'ai pas encore parlé sur ce sujet. En l'occurrence, tout ce qui est l'appel d'air, on fait venir un bateau, c'est la liturgie du Rassemblement National depuis des années. Ça n'existe pas, l'appel d'air. Il n'y a que vous qui y croyez, donc vous agitez tout un tas de fantasmes sur le côté, si on accueille ce bateau, ça va être... On parle de 234 migrants. Et on parle de l'Europe qui a accueilli, pour ce qui est de la France, 100 000 Ukrainiens. Ça ne vous a pas posé de problème, l'accueil des 100 000 Ukrainiens. Ça s'est bien passé. On n'a pas vu d'émeutes, on n'a pas vu de déséquilibre de l'économie. Ce n'est pas les gens qui ont exactement la même culture que nous, qui même ne partagent pas forcément cet arc méditerranéen. On en a accueilli 100 000. Aujourd'hui, on a 234 migrants.
Civilisation.
On a 234 migrants et en fait, c'est un problème très complexe. C'est pas juste on les renvoie dans un port parce qu'on est dans un état de droit avec des règles. Donc il y a des règles. On ne renvoie pas les gens dans des pays en guerre. Il y a des règles européennes que Giorgia Meloni d'ailleurs avait dit, s'était engagée à respecter, c'est-à-dire qu'elle a effectivement dit qu'elle voulait plus de migrants chez elle. Mais dans le même discours, elle disait je vais respecter les réglementations européennes. Elle ne le fait pas. Elle s'assoit sur la réglementation européenne quand elle fait ça. Donc en réalité, ce problème est extrêmement complexe et il y a une instrumentalisation qui en est faite, qui est un peu étonnante, si vous voulez, parce que encore une fois, on parle et je termine par là. Sur ce bateau, il y a des Pakistanais. Vous savez, parce que le Pakistan a subi des catastrophes climatiques. Il y a 40 millions de Pakistanais qui ont été déplacés, qui sont des déplacés climatiques. En 2050, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques. Donc, votre histoire d'appel d'air, de gestion de 234 migrants, en fait, ce n'est pas du tout le sujet. Je pense que vous vous trompez vraiment et de cible, de diagnostic et donc de réponse.
Julien Doulet, ensuite.
Ôtez-moi d'un doute, donc le Pakistan n'est pas un pays en guerre.
Non, mais les réfugiés climatiques, donc réfugiés climatiques,
Donc,
ils arriveront en France.
L'argument de dire on ne peut pas renvoyer les gens parce qu'ils sont originaires de pays en guerre, ça ne tient pas parce que la plupart justement de ces migrants sont originaires de pays qui ne sont pas en guerre.
Alors, Érythrée, Syrie.
Il y a pas que la Syrie. Voilà,
ceux qui sont
je vous parle des migrants en général, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que ce bateau. C'est pas un cas particulier. On a l'impression qu'il n'y a que ce bateau et que ça fait des années qu'il n'y a que ce bateau.
On accueille 100 000 Ukrainiens en 6 mois.
Mais on accueille 400 000 personnes chaque année. On accueille 400 000 personnes chaque année. Voilà. Qui pèsent aujourd'hui sur nos comptes sociaux.
Déjà, ce chiffre-là, il est largement.
Non, ce sont les chiffres officiels. Ce sont les chiffres officiels. Vous les apprendrez. C'est 400 000 personnes chaque année. Et je ne parle pas des clandestins, évidemment, entre 600 000 et 1 million sur notre territoire. Fréquemment. C'est pas le cas de ce bateau. Si vous ouvrez un port français à ce bateau, d'autres viendront, évidemment. Et le signal qui est donné, c'est que la France est ouverte. Le signal qui est donné, c'est prenez des risques, allez en Méditerranée, risquez votre vie, et ça alimente, je le dis, et c'est bizarre que ça ne choque pas les belles âmes.
S'il vous plaît.
C'est bizarre que ça ne choque pas les belles âmes. On a aujourd'hui un commerce d'êtres humains qui ne choque pas les belles âmes, parce que finalement, ça nourrit l'idéologie de la submersion, du, encore une fois, l'immigration bienveillante, etc. Ce commerce, il faut y mettre un terme. Et sauf qu'en continuant votre politique de main tendue et d'ouverture des ports, ben c'est des négriers que vous alimentez.
Antoine Laurent, s'il vous plaît, allez-y.
Je crois qu'on doit la vérité aux personnes qui nous regardent. Tout ce que vous racontez, c'est votre histoire, c'est votre narratif. Il nourrit votre politique suprémaciste, mais ce n'est pas la vérité.
Il n'y a pas de suprématie.
La vérité, monsieur, parce que c'est important que les gens puissent comprendre la vérité. Si vous parlez de civilisation,
oui, vous parlez de civilisation. Vous avez dit que les Ukrainiens, c'est
je connais votre
civilisation qui est plus proche.
Vous insinuez que parce qu'on allait secourir ces 134 personnes qui seraient une porte d'entrée et que d'autres viendraient, ce serait un signal pour d'autres, potentiellement des dizaines, centaines de milliers qui viendraient. Vous ne croyez pas que la route est déjà suffisamment dangereuse? Vous ne pensez pas que le signal est déjà suffisamment puissant et que ces gens sont déjà largement dissuadés de venir? Posez-vous la question, pourquoi ils viennent?
En fait, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix.
Mais bien sûr.
Parce qu'ils n'ont pas le choix.
Que la France est un Eldorado.
Mais
on dit
ça comme ça. Qui dit ça? Qui dit ça?
Mais les ONG.
Mais pas les ONG.
Une partie du patronat chez nous aussi, d'ailleurs.
La France est un pays qui rayonne. La France, l'Europe est un continent brillant qui rayonne à travers le monde. D'ailleurs, même on alimente ce rayonnement. Donc forcément, quand vous avez quelqu'un qui a tout perdu, vous parlez aussi, ils ne sont pas de pays en guerre, mais qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous pour juger ces gens qui quittent leur foyer, qui se déracinent? Vous avez des mineurs qui ont 15 ans, qui sont tout seuls, qui sont partis de chez eux, peut-être parce qu'ils ont perdu leurs parents, peut-être même certains qui sont partis sans prévenir leurs parents.
C'est le piège émotionnel. Vous êtes très fort. Vous êtes très fort.
Oui, et vous aussi, vous êtes très fort.
Vous avez une rhétorique émotionnelle qui est parfaite. Sauf qu'excusez-moi, il y a d'autres réalités. Il y a la réalité de ces gens, effectivement, qui ne sont pas les plus miséreux parce qu'ils payent des fortunes. Ils payent des fortunes. Ça coûte très cher.
Et où va l'argent?
Donc ce ne sont
pas
les plus
miséreux. Dans les poches des trafiquants d'êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas.
Et moi, je déplore que cette jeunesse qui pourrait, encore une fois, faire vivre, développer ces pays, cette jeunesse prend des risques inconsidérés pour venir chez nous. Pourquoi? Pour s'entasser pour de la chapelle? C'est ça l'avenir que vous voulez pour ces jeunes gens?
C'est pas ce que je souhaite. Je ne suis pas pro-migrant.
C'est indécent.
Je ne souhaite à personne d'être déraciné, sauf que c'est une réalité. Ces personnes sont forcées de fuir pour X raisons. Parfois par désespoir, ils ne sont pas en guerre, mais le désespoir peut suffire. Je veux dire, à n'importe qui, quand vous n'avez plus aucun espoir parce que tout est bouché chez vous, bien vous n'avez d'autre choix que de bouger. Parfois, vous bougez dans la ville suivante, parfois, vous bougez dans le pays suivant.
Et vous avez des millions de Français qui sont dans le désespoir aussi.
Et moi, je suis curieux de savoir ce que vous dites à vos collègues italiens, du coup. Est-ce que vous applaudissez dès demain la décision de Giorgia Meloni? Parce que le ministre des Affaires étrangères, par exemple, a dit très clairement que ce qu'il voulait, c'était envoyer un message à l'Europe pour dire « ça suffit, l'accord ne nous va pas, on va tout renégocier », alors que l'accord il remonte simplement au mois de juin. Il ne va pas, la France va prendre sa part à tout ça, et l'Italie va en parler la semaine prochaine au Conseil européen. Donc vous applaudissez dès demain la décision de Giorgia Meloni.
Je pense que les Italiens ont été très clairs lors des élections. Ils ont envoyé un signal, ils ne veulent plus d'immigration, et ils ne veulent plus accueillir de bateaux de migrants. Et en cela, le gouvernement italien respecte le vote du peuple italien.
Mais quoi que vous disiez ce soir, il reste, je sais, ces 234 migrants sur ce bateau-là. Le pouvoir en place, en France, mais aussi en Italie, en Espagne, va devoir prendre une décision. Qui accueille ce bateau? Est-ce que notre devoir, au moins, Julien Odoul, ça n'est pas d'accueillir ces gens et de faire comme on le fait pour d'autres migrants, de vérifier qui a droit à l'asile? Qui vient, par exemple, d'un pays en guerre? Qui on est en droit d'accueillir, etc. Est-ce que ce soir, notre devoir d'humanité, c'est pas simplement au moins de faire ça ce soir?
Notre devoir, c'est de les sauver quand ils sont en mer, effectivement. Notre devoir n'est pas de les accueillir.
Et ensuite?
Et moi, j'aimerais que le gouvernement tunisien, le gouvernement algérien, le gouvernement marocain prennent ses responsabilités, effectivement. Pourquoi ces pays n'accueillent jamais, je dis bien jamais, un bateau de migrants? C'est quand même assez curieux.
Parce que ces personnes ne veulent pas aller dans ces pays-là, on l'a dit tout à l'heure, et parce qu'ils n'en sont pas forcément originaires.
Ils étaient en Libye, dans des camps, et ils étaient maltraités, d'ailleurs, d'après plusieurs témoignages.
La Libye est plus proche de la Tunisie que de la France.
Encore un mot.
Dépassionner un débat qui mérite d'être passionné, parce que moi, je revendique aussi dans ce dossier de parler sous l'émotion. C'est une valeur cardinale et c'est une valeur républicaine que de parler avec son émotion. Mais il y a, dans le Parti des Républicains, M. Dumont qui a proposé de régler cela avec une zone d'attente sur une île qui permettrait d'accueillir ces migrants, en attendant qu'ils ne seraient donc pas un accueil définitif, en attendant qu'ils soient répartis dans l'ensemble des pays d'accueil qui rempliraient enfin leurs obligations telles qu'elles ont été définies par l'accord de juin dernier. Est-ce que ça vous paraît une solution acceptable sur le plan humanitaire ou un risque de reconstituer ce qu'on voit?
C'est Lampedusa.
Les îles grecques.
Il n'y a pas d'incohérence à ce que les personnes, une fois qu'elles sont débarquées, parce que la priorité, c'est de les débarquer, elles ne peuvent pas rester une éternité sur ces bateaux, parce qu'il faut bien penser que les bateaux, lorsqu'ils sont en attente devant un port, ils ne peuvent plus aller secourir d'autres personnes au large de la Libye. Et donc, il y a 300 personnes qui étaient en danger au large de la Libye, en détresse. Plus personne n'était là pour les secourir. Et ben, quand personne n'est là, ces gens, ils risquent de mourir, tout simplement. Si votre humanisme consiste à dire les étrangers, on les laisse mourir parce que la priorité, c'est les Français, ça n'est pas mon humanisme.
Mais c'est pas le mien non plus.
Parce que moi, je ne hiérarchise
pas les sauver, c'est de les sauver et de les raccompagner au port le plus proche.
Oui, bah alors très bien, envoyons des moyens de sauvetage pour pouvoir les secourir.
Et là, vous venez de dire justement qu'il y a 300 personnes
Qui ont failli mourir,
donc qui vont être secourus. Heureusement, il faut qu'elles soient secourues, mais qui seraient en tout cas susceptibles de venir accoster sur un port
donc
européen.
Vous n'avez pas répondu à ma
donc
question sur la zone d'attente.
L'idée des zones d'attente, c'est ce qu'on a, c'est déjà été essayé, c'est ce qu'on appelait les hotspots à l'époque. Oui. Mais il y a effectivement un problème d'engorgement, je dirais, de toutes ces personnes qui, notamment en Grèce, arrivaient dans les camps de Lesbos, de Kos, etc. C'était des toutes petites îles qui n'avaient pas du tout les capacités logistiques et humanitaires pour les accueillir. Donc, les mettre sur une île, ça fait un peu, bon, faut quand même, ça se rapproche un peu du bagne. On peut très bien imaginer avoir des endroits, là, si ça débarque, si l'Ocean Viking arrive à rentrer à Toulon ou à Marseille, on verra, qui puissent aller dans des centres dans lesquels déjà ils sont pris en charge sur le plan médical, et ensuite qu'on puisse regarder leur dossier et voir s'il était possible, effectivement, de demander de récupérer leur demande d'asile ou de les envoyer via le mécanisme européen dans d'autres pays.
Ce qui est dommage, c'est que c'est un problème éminemment complexe, mais que, en fait, les démocraties européennes et les démocrates européens devraient s'en saisir et le régler, ce problème, parce qu'on voit à quel point ça alimente les populismes dans toute l'Europe. Et ça devient un sujet qui obstrue en fait tout le débat public, alors que c'est un sujet, si on se donne les moyens de le régler, que les démocrates européens devraient pouvoir régler en s'organisant de façon rationnelle.
Deux informations encore. Il y a plusieurs ports français, villes françaises ou îles françaises qui sont d'accord ce soir pour accueillir ce bateau. Marseille, en Corse, Gilles Simeoni, le patron de l'exécutif corse, a dit que la Corse était prête à accueillir. Mais il faut maintenant une décision du gouvernement qui n'est toujours pas tombée à 22h56. Pour le moment, décision qu'on attend. Éventuellement, on verra comment ce cas-là est réglé. Merci beaucoup, Antoine Laurent, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Julien Doul, d'avoir été en direct avec nous.